sens de la vie.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Aujourd'hui, nous allons nourrir notre esprit, notre âme, plutôt que notre corps, et parler de ce qui nous invite, nous motive les uns les autres à jeûner. Pour nourrir notre esprit, on se concentrera sur cet aspect du jeûne, le jeûne spirituel, inscrit, je crois, depuis la nuit des temps dans la religion, les trois principales religions monothéistes, religion chrétienne, juive et musulmane. Avec nous, un studio aujourd'hui des fidèles, que je remercie très sincèrement d'avoir accepté de partager avec eux cette démarche qui est quand même souvent une démarche très personnelle. Merci à vous. Anne-Sophie Moncinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musulmane, convertie à l'islam, cofondatrice des Voix d'un islam éclairé avec Eva Janadin. Et vous êtes enseignante dans la vie. Issouf Zerbo, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez été élevée dans la foi de l'islam. Vous êtes journaliste burkinabé, originaire de Bobo-Dioulasso.
Ah oui.
Et avec nous à RFI pour un moment. Pascal Malonda, bonjour. Vous êtes chrétien évangélique, protestant, vous êtes écrivain également,
ouais.
Et pasteur, je crois.
Pasteur pour des jeunes, oui, effectivement.
Pasteur des jeunes. Et Jean-Claude Noyeux avec nous également, journaliste à la vie. Et auteur, entre autres, du grand livre du jeûne publié chez Albin Michel. Merci donc à tous d'être là. D'abord, peut-être un mot sur le jeûne. Je voudrais savoir un petit peu, peut-être avec vous, Jean-Claude Noyeux, quand on parle de jeûne, de quoi parle-t-on ?
Le jeûne stricto sensu, c'est vraiment la privation volontaire de nourriture et de boisson pour les musulmans et les juifs, mais pour les chrétiens, c'est essentiellement la privation volontaire de toute nourriture. Donc on confond souvent, en tout cas dans le monde chrétien, le jeûne et puis la pénitence ou des privations plus ou moins substantielles.
Et l'abstinence aussi,
l'abstinence, je voulais dire. Jeûne et abstinence, c'est pas pareil. L'abstinence, c'est la privation de certains plats plus ou moins substantiels. Le jeûne, c'est la privation de toute nourriture.
Et il va y avoir bien sûr différentes formes de jeûne, ça on va voir tout au long de l'émission. J'ai beaucoup de chance de vous avoir autour de cette table parce que je vais vous demander une question personnelle qui est la première, peut-être Anne-Sophie. Pourquoi jeûnez-vous ? Qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette démarche de jeûne ?
Alors, en islam, le terme arabe, en fait, pour désigner le jeûne, il désigne plusieurs choses. Donc il y a l'idée effectivement de jeûner, mais il y a aussi l'idée d'abstinence, de chômer, de se taire et de se calmer. Donc en fait, le jeûne, ça va viser à tout ça à la fois. Donc c'est un jeûne qui a un objectif spirituel, comme vous l'avez très bien dit, et qui vise alors à affaiblir le corps par l'absence de nourriture, dans le but de se détacher de la matérialité pour pouvoir s'élever et à des fins spirituelles, donc pour pouvoir apprendre à maîtriser son corps, à maîtriser ses désirs, à maîtriser ce que les soufis vont appeler aussi l'ego, donc afin de développer la spiritualité.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que vous parlez d'affaiblissement du corps, Pascal Malonda. Est-ce qu'on est dans un affaiblissement du corps ? Est-ce que c'est comme ça que vous le concevez également, ce jeûne ?
Voilà, donc en fait, lorsqu'on lit la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, voilà, l'apôtre Paul dit que l'homme, on est esprit, âme et corps. Et c'est vrai que lorsque l'on jeûne, en fait, on fortifie son esprit. Et du coup, le corps s'affaiblit. Et comme le corps s'affaiblit, en fait, nos sens spirituels sont beaucoup plus aiguisés pour reconnaître la voix de Dieu, se connecter à Dieu. C'est vrai qu'on est dans une société où aujourd'hui il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bruit, et c'est hyper difficile de pouvoir prendre un temps à part et se concentrer vraiment pour pouvoir entendre la voix de Dieu pour notre propre vie, pour connaître ses directions. Et donc le jeûne nous permet donc une mise à l'écart, voilà, et aussi de se retrouver avec soi-même pour pouvoir se connecter avec Dieu et connaître un peu quelle est sa pensée pour notre vie, en fait.
Une concentration sur l'esprit, Issouf, je vous voyais opiner du chef. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pascal Malonda ? Vous avez cette même approche ?
Oui, tout à fait, parce que, en plus de ce qu'il vient de dire, pour moi, le jeûne, c'est aussi un moment de se rapprocher plus de Dieu, oui, parce que ça me met en communion parfaite avec Dieu, et la privation, comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, et c'est aussi une façon de comprendre ce qu'ils n'ont pas, ce que nous on arrive à avoir comme les trois repas journaliers. Pour d'autres, plus que ça, ça dépend encore des moyens. Donc c'est une façon aussi de sentir à peu près comment est-ce que ceux qui n'en ont pas comme nous ils vivent, et du coup ça nous permet aussi de penser à eux et d'avoir le sens du partage. C'est ça.
De se mettre en communion, en fait, avec ceux qui n'auraient pas forcément non plus de quoi manger. C'est une vraie solidarité. On va en parler, évidemment. Je reviens sur le terme affaiblir, parce que dans ma conception un peu naïve du jeûne, c'est justement on tire sa force du jeûne. Et le corps d'emblée est écarté. Peut-être parce que c'est pas une démarche que je fais moi, et donc le jeûne et l'affaiblissement du corps, je ne le connais pas. Est-ce qu'on a vraiment, du coup, une force qu'on trouve justement dans ce jeûne et ce moment où on se concentre peut-être au-delà de soi?
Alors oui, et en fait, quand on parle d'affaiblissement, c'est uniquement par rapport au corps, mais ça donne une véritable force spirituelle et qu'on peut sentir quand on expérimente le jeûne sur une certaine durée par un état de présence qui est renforcé, par une plus grande sérénité, une plus grande paix intérieure. Voilà. Et pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Youssouf, il y a aussi l'idée du remerciement qui est présente d'ailleurs dans le verset coranique, puisque le jeûne, surtout au moment du ramadan, il correspond au moment de la révélation du Coran. Donc en se privant de quelque chose, en sacrifiant un petit peu de nous, on remercie Dieu, on rend grâce à Dieu pour la révélation du Coran.
Est-ce qu'on a l'impression d'entendre plus clairement, de se rapprocher de Dieu grâce à ce jeûne, justement en mettant de côté cet aspect corporel, Pascal Valanda?
Juste pour rebondir sur ce qu'il disait, Anne-Sophie. Hein. Voilà, donc en fait, c'est vrai que ça dépend les différentes formes de jeûne, donc je pense qu'il aura l'occasion de développer. C'est vrai que lorsque ce sont des jeûnes secs, c'est-à-dire avec privation de nourriture et uniquement avec de l'eau, les trois premiers jours sont difficiles parce que l'estomac réclame de la nourriture, mais ensuite, étrangement, le corps humain puise dans les ressources en fait du corps, et en fait on se rend compte qu'on a plus d'énergie que lorsqu'on mange. Voilà.
D'accord, Jean-Claude.
Donc ça c'est un paradoxe.
Oui, oui, non, non, mais Pascal a commencé à développer ce que je voulais dire. Effectivement, dans les jeunes que je suis, moi, jeune mis au point par un médecin allemand, le docteur Buchinger, et qui est un jeune qui est beaucoup repris dans les groupes, dans les sessions, par exemple, jeûne et Bible, jeûne et prière, dans le monde chrétien. C'est des jeûnes de 5, 6, 7 jours ou plus, avec apport d'eau, et de fait, au bout de 2 ou 3 jours, il y a un moment difficile qui est le 2e ou 3e jour. Après, le corps bascule, le corps comprend qu'il ne peut plus aller chercher la nourriture à l'extérieur, mais dans les réserves, il commence à puiser. Et généralement, c'est accompagné d'un retour très fort de l'énergie, avec des bons moments. Les sportifs, certains grands sportifs, continuent à s'entraîner vraiment intensément en jeûnant pendant plusieurs jours. Et en même temps, comme vous l'avez dit les uns et les autres, il y a une espèce d'approfondissement de la vie intérieure. Ce médecin allemand disait, docteur Buchinger, quand on jeûne, ce n'est pas le corps qui a faim, c'est l'âme qui a faim, l'âme qui cherche quelque chose, qui a besoin de nourriture. Et donc, de fait, c'est le fondement de toutes les pratiques de jeûne dans toutes les religions, c'est de se rapprocher du divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit aussi bien dans les religions monothéistes ou en Inde, etc.
Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de très jolie phrase?
Oui,
c'est vrai qu'on comprend tout de suite l'importance du jeûne. Il souffre, par exemple.
Et ça me fait rappeler, effectivement, que, par exemple, quand moi je jeûne, je ne sens plus musulman. Il y a ma croyance, il y a l'impression que ça s'accroît. Donc, juste après le jeûne, ma foi s'augmente, je le sens, je le vis. Et alors, effectivement, ça accoutume aussi mon corps et mon esprit à pouvoir continuer. Je sais que dans mon pays, par exemple, au Burkina Faso, il y a beaucoup de jeunes, pendant le mois du ramadan, ils s'obligent à suivre le jeûne. Juste après le jeûne, il y a des habitudes qui continuent jusqu'à un certain temps, et après, on voit que ces habitudes-là s'estompent. Voilà, donc ça veut dire que le jeûne aussi a un très grand rôle pour habituer le corps, hein, faire souffrir le corps, comme ils l'ont dit, cette habitude-là. Et montre la communion avec Dieu, et ça augmente pour moi, en tout cas ma croyance, ça me lie véritablement avec Dieu.
Je vous propose d'écouter Ousmane Traoré. Alors il est malien, il vit à Bamako, il est musulman, et je lui ai posé sensiblement les mêmes questions que celles que je vous pose, parce qu'on va tourner autour de cette question, mais après chacun a bien sûr son interprétation personnelle.
Chez moi, oui, c'est assez culturel, surtout ici au Mali, nos parents sont musulmans, du coup depuis l'enfance on est éduqué à cela. Le jeûne, c'est vraiment important parce que déjà, en tant que musulman, c'est une obligation divine. Donc, c'est des prescriptions de la religion. Donc, on est obligé de le faire. Moi, je pense que ça a une portée spirituelle aussi. Parce que le jeûne, en tant que tel, ça nous permet de se maîtriser, de comprendre aussi qui on est, d'avoir des moments de méditation sur Dieu et sur les autres. Donc, l'objectif même du jeûne, c'est la tolérance. C'est d'aller vers les autres, essayer de les comprendre. C'est vraiment important parce que l'autre aspect du jeûne, comme on l'explique aussi, c'est la générosité. Parce que déjà avec la faim et tout, on se rapproche des autres, de ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, il y a la modestie, il y a la frugalité. Et les moments de répit sont importants parce que généralement, ça se fait en groupe. Que ce soit dans les familles, dans les mosquées, il y a même des ruptures collectives qui sont organisées. Et pendant ce temps-là, les gens, ils célèbrent, ils partagent le repas ensemble.
Ils célèbrent davantage le repas
ensemble. Tout de la religion.
Comment est-ce que vous vous préparez à cette période de jeûne, physiquement et puis moralement?
Déjà avant le mois de Ramadan, on l'accueille, on jeûne 2-3 jours. Ça permet de prendre un peu la température. Et pendant le mois, ça vient naturellement. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça permet de tenir. Au niveau du travail et des déplacements, on réduit beaucoup pour pouvoir tenir le jeûne. Et je vois que les gens sont beaucoup plus actifs la nuit, parce que la journée, c'est difficile avec le soleil de beaucoup bouger. C'est très, très chaud ici, donc les gens, ils sortent à peine. Par rapport à la rupture, moi, c'est généralement à la maison ou au bureau, parce qu'on reste là-bas tard, parce que à l'heure de descente, il y a généralement les embouteillages. Donc, on reste au bureau pour rompre le jeûne. Après, on rentre à la maison. Sinon, la plupart du temps, c'est à la maison avec les amis, les proches.
Est-ce que vous sentez vraiment que ça a un effet, en fait, sur votre foi, sur la façon dont vous la vivez?
Oui, oui. Surtout pendant le mois de carême, c'est vraiment important. On se sent léger. On se sent plus proche des uns et des autres de Dieu. C'est vraiment important. Mais le plus dur aussi, c'est de pouvoir maintenir cette cadence, c'est de pouvoir maintenir ce rythme de travail sur soi, même après le mois de Ramadan. C'est ça qui est souhaité. Mais bon, généralement, on ne constate pas ça tout le temps.
Ousmane Traoré, ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans ce témoignage le jeûne aujourd'hui, parce qu'il y a le jeûne aujourd'hui. Et ici, par exemple, quand vous êtes arrivé avant le début du Ramadan, au moment du Ramadan, vous êtes arrivé en France, Issouf, vous vous êtes posé une question sur comment est-ce que vous allez pouvoir le mener à bien, ce jeûne, peut-être.
C'est ça. J'ai eu quelques moments de doute. Il faut dire que j'ai quitté Lyon le jour même du début du carême, du jeûne. Je n'ai pas jeûné parce que je savais pas à quelle heure j'allais arriver à Paris. Et après ça, j'ai eu des jours, j'ai douté toujours parce que vu la journée qui est très très longue ici, contrairement au Burkina où nous jeûnons vers 5h du matin, 5h30 tout au plus tard. Et la rupture, c'est 18h30 tout au plus.
Plutôt, parce que voilà, les jours sont plus courts.
C'est ça, la journée est plus courte. Ici, la journée est très très longue. Donc, il y a eu quelques moments de doute. Mais bien heureusement, je suis avec un ami musulman. Donc, ça m'a donné le courage de le suivre et puis de continuer. Et les premiers moments, effectivement, c'était difficile, comme la journée est très longue et nous, on n'était pas habitués à ça. Voilà, maintenant, je prends, ça ne me dit plus rien, puisque toute la journée, je travaille, donc, ouais.
Donc, c'est l'habitude est prise. Comment on prépare ce carême, ce jeûne, Anne-Sophie Monsimé?
Juste avant, j'aimerais rebondir
bien sûr,
par rapport
bien sûr.
À ce qu'il vient de dire. En fait, la difficulté en France, indépendamment du fait que la journée soit un peu plus longue, c'est aussi le décalage horaire, parce qu'on est à l'heure d'été. Donc, on est 2 heures avant, on a 2 heures de décalage par rapport au soleil, en fait. Ouais. Si on enlevait ces 2 heures-là, notre rupture de jeûne, elle serait à 19h30, comme dans les pays africains, en fait. Ouais. Donc, ça rajoute effectivement une difficulté, parce qu'en fait, concrètement, la journée de travail va être décalée 2 heures plus tôt que par rapport à notre journée. Journée biologique vécue, quoi.
Mais donc c'est encore plus difficile quand on a terminé de se lancer.
Alors du coup, pour préparer, alors bon, moi je m'impose de certaines règles personnelles en plus pour le Ramadan, notamment au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que ça va être un petit peu différent de ce qu'a dit l'intervenant au téléphone, mais je vais manger que certains types d'aliments. Notamment parce que j'estime que c'est dans l'esprit du Ramadan, c'est un mois de jeûne, de carême qui dure un mois et c'est pas uniquement la journée et ça s'arrête la nuit, c'est vraiment tout le mois. Donc je vais pas manger de gâteau, je vais pas manger d'excitant, pas de thé, pas de café. Je vais manger que des aliments vraiment sains, donc des fruits, des légumes, des féculents, des produits laitiers, pas de chair animale non plus. Voilà. Du coup, alors ça se prépare évidemment,
bien sûr,
donc notamment
si vous
pour
êtes
les excitants. Voilà.
Accro au café, faut gérer.
Alors, je suis pas accro au café, mais j'en bois un par jour le matin, voilà, de manière très classique. Du coup, bon, bah, ça, il y a, moi, 15 jours avant le début du jeûne, en fait, je fais une désensibilisation au café. Donc, je réduis ma consommation de manière progressive. Et à 3 jours du ramadan, j'en bois plus du tout. Et comme ça, il n'y a aucun souci, j'ai pas de migraine, ça se passe très bien.
Oui, c'est ça, parce que aussi, vous ne buvez pas dans la journée. Je crois que ça, c'est un facteur assez important de migraine, ou en tout cas de maux de tête.
L'absence aussi de la caféine, le corps demande. Et le fait aussi de pas manger de sucreries le soir, ça aide parce que le sucre appelle le sucre. Donc si on mange énormément de sucre le soir, on va d'autant plus sentir la faim le lendemain.
D'accord.
Et moi, c'est ça qui me facilite énormément.
C'est un entraînement. Pascal Malonda, votre jeûne, vous l'ouvrez. Déjà, c'est parce que là, on parle d'un jeûne qui est celui du carême et du ramadan qui dure un mois. Dans votre religion évangélique, combien de temps dure un jeûne? Est-ce qu'il y a un temps prédéfini? Est-ce qu'il y a des durées?
Voilà, donc en fait, il n'y a pas de temps. Voilà, et du coup, même la Bible n'impose pas de jeûner telle ou telle période. C'est vraiment chaque personne qui, soit individuellement, soit collectivement au niveau de l'Église, décide de jeûner. Voilà, donc moi, pour ma part, lorsque je me mets à jeûner, c'est que dans mon cœur, j'en ressens le besoin. Voilà, et donc nous, dans la religion chrétienne, on croit que du coup, quand Dieu nous met à cœur de jeûner, voilà, il nous donne la capacité de le faire, en fait. Donc après, il y a différentes formes de jeûne. Hein. Donc soit il y a le jeûne où on coupe le soir à 18h, 19h. Donc en fait, on saute le déjeuner. Où il y a des jeûnes, voilà, comme on dit, secs, où on boit que de l'eau. Enfin, des fois, on boit pas d'eau, des fois, pendant 3 jours. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Voilà, dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Esther, où c'est Esther qui fait un jeûne de 3 jours secs, sans manger, sans boire. Ou sinon, il y a un jeûne où on boit de l'eau, et puis, voilà, ça peut être 4 jours, 5 jours, 6 jours. Moi, j'ai pas de préparation spéciale. c'est peut-être plus au niveau de l'organisation, parce que, bah, comme elle l'a bien dit, hein, c'est vrai que des fois, si on jeûne et qu'on est occupé à faire plein d'autres choses, bon, finalement, c'est une privation de nourriture parce qu'on n'est pas vraiment focus sur l'objectif, quoi.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir.
Voilà. Mais c'est peut-être aménager peut-être le planning pour que, voilà, si ça dure une semaine ou 10 jours, peut-être aussi, voilà, concentré sur l'objectif, quoi.
Je me dis qu'aujourd'hui aussi dans la vie, ben, vous l'avez dit, Jean-Claude. Ouais. Vous voyez, au début, c'est une vie trépidante. C'est on travaille, on est au bureau, on fait plein de choses et tout ça. Comment s'inscrit ce jeûne, surtout. Enfin, je pense au jeûne du Ramadan quand même, parce que c'est celui dont on parle beaucoup. Il a tendance un peu à moi la première d'ailleurs à impressionner. On est très très étonné, respectueux de gens qui font ce jeûne, admiratif également. Comment on fait dans une vie du quotidien comme ça à l'inscrire? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que Anne-Sophie Monsinet?
Bah, disons que c'est vrai que par rapport à ce que vient de dire Pascal, le Ramadan, on choisit pas la date. Du coup, tout le monde n'a pas la possibilité effectivement d'aménager son emploi du temps et beaucoup travaillent pendant ce mois, et ce qui rajoute effectivement en difficulté. Alors moi, dans la mesure du possible, j'essaie de me réserver à chaque Ramadan des temps de retraite, souvent à la fin du mois, puisque le Coran est révélé plutôt à la fin du mois, lors des 10 dernières nuits, et donc des temps de retraite spirituelle pour vraiment vivre le jeûne avec la globalité du sens, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le silence, le jeûne, donc la retraite. Et d'ailleurs, il y a un verset coranique qui fait directement référence à ça et qui raconte donc l'histoire de Marie qui vient d'avoir Jésus, elle vient d'accoucher de Jésus, et Dieu lui dit de secouer un dattier, donc elle va se nourrir de dattes, et elle répond qu'elle va consacrer à ce moment-là un jeûne à Dieu, alors qu'elle vient de manger des dattes. Donc c'est, mais en fait, un jeûne silencieux. Donc elle précise qu'elle va se taire à ce moment-là. Donc là, elle met l'accent sur l'aspect retraite du jeûne et pas alimentaire. Voilà. Donc au moment des retraites, on essaie de faire les deux, en fait. Donc le jeûne alimentaire, donc de pas manger, et aussi le silence. Et là, vraiment, on consacre les journées qu'à des activités spirituelles, donc de la prière, chapelet.
Ce qui doit aider beaucoup, d'ailleurs, non?
Bah, ce qui donne surtout tout son sens, en fait, et ce qui fait tout l'intérêt, en fait, de ce jeûne-là. Si on est effectivement occupé à des occupations, bon, professionnelles, non spirituelles, c'est vrai que ça réduit un peu l'intérêt.
Jean-Claude Noyer.
Je voulais rebondir parce qu'en fait, c'est vrai que moi, en ayant étudié les pratiques de jeûne dans toutes les religions, ce qu'on voit bien, c'est que le jeûne se combine avec la rétention de la parole, le silence, comme Anne-Sophie vient de le dire, mais aussi la réduction du sommeil, souvent, et aussi le contrôle de la sexualité. Cette addition de refus, de maîtrise, c'est dans cette addition de refus que l'homme religieux, l'homme spirituel, trouve sa voie, son épanouissement. C'est important de préciser que voilà, on jeûne pas seulement de pain, mais aussi de paroles, probablement aussi de consommation excessive de télévision, d'internet, etc.
De plaisir qui pourrait jalonner sa vie du quotidien, peut-être.
Dans la tradition, il y a aussi le contrôle de la sexualité, y compris autrefois dans le monde chrétien. Maintenant, on l'a un peu perdu, mais on retrouve ça dans le judaïsme aussi, puisque dans le judaïsme, il y a 7 jours de jeûne pendant lesquels les juifs qui jeûnent ne boivent pas, ne mangent pas, n'ont pas de relations sexuelles et sont censés, c'est très important de le préciser, s'intérioriser autant que possible, prier, lire la Torah. Et dans le monde musulman, pendant le jeûne, on lit normalement la totalité du Coran où on l'écoute.
Hein,
donc, il faut rappeler. Je donne la parole à Issouf, peut-être.
Oui. C'est ça. Effectivement, dans nos pays, ici, je suis pas trop imprégné parce que je viens d'arriver à Paris, sinon, à partir de la prière de 16h, il y a des séances de prière jusqu'à la tombée de la nuit, au moment de la rupture, les gens viennent assister pour ceux qui ne savent pas lire, pour ceux qui savent lire, et peut-être qui préfèrent rester chez eux, lire le Coran, et tranquillement, mais pour ceux qui ne savent pas lire, la plupart du temps, se rendent dans les mosquées, écoutent en tout cas les sermons, la lecture du Coran, jusqu'à la rupture. Mais je voulais revenir un peu sur les jeunes. Chez nous aussi, en dehors du mois des carême, du mois des jeunes, il y a des jeunes aussi, parce que si généralement si on a des doléances ou bien on a des soucis, souvent on fait quelques jours de jeûne, voilà, pour invoquer, comme l'objectif du jeûne a été évoqué ici. Tout ça, c'est pour se rapprocher en dehors du mois de jeûne.
D'accord.
Voilà, ça se passe aussi chez nous, les musulmans.
À un moment, on a besoin de pouvoir plus, être plus en direct, parler plus directement à Dieu, être plus religieux et concentré sur,
c'est ça.
Sur sa foi.
Parce que tout au long de l'année, on ne peut pas être en communion directe, mais à partir de certains moments de difficultés ou qu'on a besoin de certaines doléances, c'est notre être suprême. Voilà, donc nous sommes des croyants, c'est au Dieu que nous nous référons, nous lui demandons, et cela passe par le jeûne et ensuite la prière. En ce moment, on se sent plus proche, en tout cas on croit que nos doléances seront exaucées.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Sela ha ha, wala dano masira. Sungalo sela ha ha, wala dagalo sera. Sereba nana, wala dano masira. Umi meta miserela, wani minde ta miserela. Wanywa, eh wanywa miserela, eh wanywa miserela.
Série de Tiken Jaffa Coli sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, un goût particulier aujourd'hui puisqu'il est question du jeûne, nourrir l'esprit plutôt que le corps, pour mettre en exergue justement cette communication et ce dialogue avec Dieu et dans sa foi. C'est vous qui avez choisi ce titre, Issou Zerbo, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi?
Ce titre me plaît bien et ça sied en cette période de jeûne, les uns et les autres l'ont dit, et en ces mois béni de Dieu, il faut écouter les prêches, le Coran, lire le Coran ou les prêches. Ce qu'il dit dans la chanson, en réalité, c'est appeler les jeunes à aller à la prière. Parce que c'est un mois béni, il ne faut pas, étant dans nos activités quotidiennes, oublier d'aller à la mosquée, oublier de jeûner. Parce que le mois va passer et nous n'aurons pas la bénédiction de quelque chose qui passe. Donc, il faut tout laisser. Il faut aller à la prière. Misiri, ça veut dire mosquée.
D'accord,
il
donc faut aller à la mosquée. De la musique, mais de la musique qui va vous amener à prier, à rester concentré sur
c'est
votre
ça.
Jeûne.
Je crois qu'en dehors de la lecture du Coran ou les prêches, c'est les musiques religieuses musulmanes sont conseillées aussi en ce qui concerne la religion musulmane que je connais chez nous.
Jean Flenoyer, c'est quelque chose qui se retrouve dans les diverses religions, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de ses plaisirs ou de cette attention, on reste concentré sur sa foi. Est-ce que dans les différentes religions, il y a comme ça une attention à moins de musique, plus de silence, plus...
Oui, tout à fait, oui, on en a déjà parlé tout à l'heure, absolument. C'est le retour à soi, il passe par le silence, c'est évident, surtout dans un monde qui fait tellement de bruit, quoi, et c'est... Alors je digresse un peu, mais je pense, on a parlé de frugalité tout à l'heure. Et je pense que dans le jeûne, il y a vraiment une dimension presque politique, écologique. En fait, on parle beaucoup de l'avènement d'une société moins consumériste, etc., de frugalité heureuse, ben je pense que le jeûne peut préparer à ça aussi. Peut nous préparer à vivre mieux avec moins. C'est le slogan.
La simplicité
volontaire, la frugalité heureuse. Et je pense que c'est un aspect qu'on développe pas souvent du jeûne, mais dans mon bouquin, j'ai fait un petit chapitre là-dessus. Ah voilà, non, sinon effectivement, retour à soi, silence, beaucoup de fraternité. Moi, je suis frappé dans les groupes de jeunes que j'anime avec d'abord un prêtre et maintenant un laïc. C'est très vite, les jeûneurs ont développé des liens de solidarité très importants entre eux. On va à l'essentiel et du coup, il y a quelque chose qui se tisse. Enfin,
j'imagine que c'est ce que vous pouvez observer également, Pascal Malonda, puisque vous êtes pasteur de jeunes, des jeunes. Donc, est-ce que ce sont les échos que vous avez également quand vous parlez avec les jeunes?
Alors, c'est vrai que des fois, les jeunes n'aiment pas trop le jeûne.
C'est un apprentissage.
Voilà, après, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous responsables de sa vie. Et que des fois, il y a des actions qu'on pose qui peuvent être importantes par rapport à la direction qu'on veut donner à notre vie, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que le jeûne, les jeunes apprécient, parce que c'est un moment où ils peuvent arrêter d'être distraits, voilà, par toutes sortes de choses, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc.
Ça ne va pas du tout ce dont vous voulez parler.
Voilà. Et donc, du coup, pendant un temps défini, pouvoir s'arrêter et se poser des questions pour sa propre vie, en fait, et se demander, voilà, je suis sur la Terre pour un but, quel est le but pour lequel je suis sur la Terre? Et simplement aller au pied de son créateur et demander, voilà, moi j'ai envie de connaître le but pour lequel je suis sur la Terre, est-ce que tu peux me le révéler, en fait? Et donc c'est dans des occasions de jeûne où justement il y a cette mise à l'écart, où ils peuvent être sensibles à ce que Dieu va leur dire, que ce soit donc au travers de la Bible, où Dieu utilise plusieurs moyens, voilà. Et la parole dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est à la fin du jeûne, je ne sais pas s'ils le font, hein, c'est le fait de partager les témoignages des uns et des autres, et de voir ce que les uns et les autres ont reçu. Et je peux vous garantir que vous serez surpris, parce que les uns et les autres ont reçu. Et surtout, des fois, les gens, en étant chacun chez soi, hein, des fois, ils ont reçu des choses que d'autres ont reçues au même moment, ce qui nous permet vraiment de voir que voilà, il y a un seul Dieu, un seul et même esprit, qui parle aux uns et aux autres de différentes manières, en fait. Mmh. Voilà. Donc les jeunes qui expérimentent ça, par eux-mêmes, ensuite, c'est eux-mêmes qui sont demandeurs de...
Parce qu'aussi, jeûner, être dans le silence, ça veut dire avoir les oreilles et l'esprit et l'âme grande ouverte. Oui. Donc ça veut dire qu'on est, on est à même de percevoir ces signes, à même de comprendre un message donné. Anne-Sophie Moncinet, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous n'êtes pas musulmane d'origine, vous êtes convertie à l'islam. Comment est-ce que vous en êtes venue à vous convertir, à embrasser cette religion?
Alors, c'est principalement passé par les textes. En fait, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la Bible et j'ai connu des expériences mystiques assez fortes pendant ma lecture de la Bible et j'ai été amenée ensuite à lire le Coran et c'était pour moi une évidence que ce texte est la suite, en fait. Voilà, donc je me suis convertie à l'islam après ma lecture du Coran. Voilà, et donc j'ai très vite rejoint les courants soufis. Donc le soufi, c'est la mystique, la voie ésotérique de l'islam, puisque justement ma conversion était d'abord passée par des expériences mystiques. C'était le chemin naturel, en fait, pour moi.
Et le jeûne, quelle place a le jeûne justement dans votre vie de fidèle?
Bah alors, en fait, j'ai d'abord découvert le sens spirituel du jeûne à travers la Bible, puisque j'ai lu la Bible en premier et Jésus dit de très belles choses sur le jeûne dans la Bible. Donc ça m'avait intrigué déjà à cette époque. Et après, donc quand je me suis convertie à l'islam, donc le Ramadan était vraiment l'occasion d'expérimenter, d'essayer. Et ça m'effrayait beaucoup, moi, au début, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. En plus, un peu plus jeune, j'avais déjà fait de l'hypoglycémie. Je me disais, sauter un repas, ouais, je vais mourir, quoi. C'est pas pour moi. Et donc, j'ai essayé. Alors, au début, juste des week-ends, parce qu'en plus, je travaillais cette année-là. Donc, j'avais fait juste des week-ends et c'était une catastrophe, parce que du coup, c'était deux jours isolés, donc on peut pas prendre le rythme. Et donc, voilà, c'était plus une souffrance à ce moment-là que véritablement spirituellement. spirituel et profond. L'année d'après, là, je me suis dit, je vais essayer sur toute la durée. Et là, effectivement, donc j'ai commencé à sentir des effets beaucoup plus intéressants, spirituels. Et puis, bah, au fil des années, donc j'ai réitéré l'expérience. Puis par la suite, dans les milieux soufis, bah, j'ai été amenée à faire des retraites spirituelles où on jeûne, donc en dehors du ramadan. Et c'est devenu presque une seconde nature. Maintenant, moi, j'ai même plus le temps d'adaptation des 2-3 jours, quoi. Je rentre tout de suite dedans.
C'est Gandhi, voilà. Je crois, qui disait quelque chose, Jean-Claude Noyer.
Oui, Gandhi dit beaucoup de choses sur le jeûne. Enfin, il disait que c'était vraiment essentiel pour lui. Et j'ai plus les phrases.
Je crois que c'était comme les yeux pour voir.
Voilà. C'est pour. On peut dire que Gandhi a libéré l'Inde en jeûnant, notamment. Pas seulement, mais aussi en jeûnant. Ces jeûnes avaient une portée politique. Mais chez lui, ce qui est intéressant, et c'est dans notre conversation, là, il ne dissociait pas l'action politique du travail sur soi de l'action spirituelle. C'était fondamentalement un spirituel. Donc le jeûne avait vraiment une portée spirituelle et politique. C'est un cas très intéressant.
Enfin, on ne peut pas dissocier les uns des autres, en fait, la prière, le jeûne. On va l'arrêter, ce jeûne, cependant. Il y a un moment, en tout cas, on mange à nouveau, donc on rompt ce jeûne. Je vous emmène à Dakar. Notre correspondant Guillaume Thibault a partagé la rupture du jeûne de Marasek. Il est musicien, l'héritier d'une grande famille de percussionnistes qui pratiquent le sabar, c'est un mélange de rythme, de musique et de danse. Il vit dans le quartier populaire de Wakam et c'est chez lui que le musicien rompt le jeûne. Il est
19h34. Ah, c'est parti, c'est l'heure de couper partout à Dakar. Maintenant on peut manger. Je suis là. Voilà.
Chacun a ses petites habitudes au moment d'une dogou. Certains veulent quelque chose de chaud, d'autres quelque chose de froid. C'est quoi vos habitudes?
Il y a des gens qui préfèrent de boire du kinkliba lors d'une dogou. Il y a des gens aussi qui préfèrent de boire du café normal. Il y a des gens qui ont envie de boire café tout bas. Il y a des gens qui ont envie de boire café au lait. Donc ça dépend. Déjà, moi, je préfère juste de boire mon café normal, café simple. Voilà. Avec un bon café, voilà quoi, avec des dates aussi.
Les fameuses dates, c'est essentiel.
Les tendermans, ouais. Ça, je dois, par exemple, c'est bon. C'est normal, quand tu fais le ramadan, il faut couper avec les dates, parce que c'est ça qui est écrit dans le Coran. Donc tout le monde fait ça.
D'où est-ce que viennent les dates qu'on mange au Sénégal?
Je pense qu'il y a des qui viennent du Maroc, d'Arabie Saoudite, comme ça, mais surtout la Maroc, je pense. Hein. J'adore. Papa. À là-bas.
Bye bye.
Et avec ça, et avec ce petit café?
Là, j'ai acheté des bons pains locaux que j'adore. Pain tchéré. Tchéré, ça veut dire le mil.
C'est du pain, malheureusement, qu'on trouve plus partout aujourd'hui.
Voilà. Là, ici à Wakam, tu le trouves ici. Donc, il y a du pain tchéré, pain nyebé, pain mil, pain fognon, pain nebedaï. Mais c'est vraiment c'est génial. Moi, maintenant, je mange que ça. Si tu manges ça, tu es calé, hein. C'est bon.
Assalamu alaikum.
Aïssa. Ça, c'est les mourides, c'est les baïfals. Donc, ils distribuent tout le temps des cafés tout bas gratuits pour tout le quartier.
Il faut expliquer les baïfals, c'est qui et c'est quoi cette tradition du café?
Ben, les baïfals, ça fait partie de Mam Cheikh Profal. Il y a des baïfals qui ne font pas le ramadan, mais ils donnent tout le temps des ndogou. Les cafés tout bas distribuent les gens gratuitement, du pain avec du beurre et tout ça. Café tout bas gratuit pour tout le monde.
Comment est-ce que vous vous appelez?
Je m'appelle Soro. Sourval.
C'est quoi le secret du café Touba?
Le préparer avec des bons cafés, pure qualité, avec des djars, bons djars, le silopia éthiopica quoi. C'est ça qui donne le goût quoi, qui donne le vrai goût du café. On fait un bon cuisson.
Depuis combien de temps le café Touba est en train de chauffer doucement là?
Ici, ça fait longtemps. Hein. On prépare depuis 15 heures quoi.
Ça, c'est une tradition très sénégalaise, c'est-à-dire que vous donnez le café tout bas aux gens qui passent en voiture, aux gens qui sont à pied, aux jeunes du quartier, à tout le monde.
Oui, c'est une tradition très ancienne.
L'idée, c'est de partager.
Oui, donner, disperser, tout le monde.
Nous, depuis qu'on est né, on a vu ça, nos oncles, nos grands-pères, toute la famille fait ça. Surtout les mourides, comme il a dit, le baïvalisme. Donc partout à Dakar, tu vois ça, l'endogou.
Le ndogou, c'est aussi un moment très familial. Ouais. L'amitié est forte, tous les amis sont là.
C'est ça, les fêtes, les gens, au mois de ramadan,
Tu invites, tes amis qui viennent chez vous, vous préparez un bon dogou, de manger un bon repas, un bon tchèboudjen ou n'importe quoi, ou un bon yassa ou comme ça. Donc c'est vraiment un mois de partage avec tes familles, tes proches, quoi. C'est important.
Marasek, et donc ce reportage de Guillaume Thibault, notre correspondant à Dakar. Je voudrais savoir, Anne-Sophie, quand vous entendez l'appel à la prière, comme ça, ça vous fait quoi?
Tout appel à la prière, c'est un bonheur. Les paroles sont sublimes et voilà, quand on en comprend le sens, et même musicalement, c'est très beau aussi. C'est très bien chanté, les appels à la prière, donc c'est très émouvant à chaque fois pour nous.
J'imagine que les cloches d'une église qui sonnent aussi, c'est un appel.
Voilà, en fait, les cloches d'une église qui sonnent, c'est plus dans les églises catholiques.
Et orthodoxes.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui appelle à la prière quand on est évangélique?
Bah, je pense que c'est simplement le fait d'apprécier d'être dans la présence de Dieu. Et c'est l'appel du cœur, en fait, tout simplement. Voilà, les cloches sont à l'intérieur.
Goodbye world, I stand no longer with you. Goodbye pleasures of sin, I stand no longer with you. I made up my mind to go God's way. The rest, that's it. I made up my mind to go God's way. The rest of, come on, say it again, say it.
Goodbye world,
Caribbean Medley, vous êtes sur RFI. Denis McClurkin, vous écoutez le Goût du Monde. Nous parlons du jeûne spirituel et de la décision de nourrir son âme, son esprit, plutôt qu'en son corps, pendant un moment donné, des motivations de ce jeûne également avec nos invités, Issou Zerbo, qui est journaliste burkinabé, Pascal Malonda, qui est pasteur, Anne-Sophie Monsinet, qui est musulmane convertie, et Jean-Claude Noyer, qui est journaliste à la vie et auteur du grand livre du jeûne. La question que je me posais, c'est où en est le jeûne chrétien, Jean-Claude Noyer?
J'ajoute qu'il y a une petite confusion langagière, parce que le carême, c'est pour les chrétiens, le ramadan, c'est pour l'islam, le ramadan, c'est un mois lunaire, et c'est aussi la pratique du ramadan pendant le mois de ramadan, du jeûne pendant le mois de ramadan, donc faut bien redire
que
les choses.
Que l'on appelle carême, cependant.
Ben oui, par habitude, mais ça, c'est le colonialisme qui a fait ça, quoi, hein, qui fait, parce que vraiment, ramadan, c'est ramadan, et carême, c'est, alors le carême, c'est avant la résurrection, c'est la préparation de la résurrection. Pour les chrétiens, c'est la période d'abstinence, plutôt que de jeûne, ou de jeûne, la plus importante. Mais pour répondre à votre question, il faut distinguer les églises chrétiennes, parce que parler de chrétien, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des pratiques propres aux orthodoxes. Les orthodoxes sont restés beaucoup plus fidèles aux pratiques de jeûne. Les orthodoxes, les coptes égyptiens jeûnent jusqu'à près de deux tiers de l'année. Enfin, faut abstinence plutôt que jeûner. Donc c'est très intense. L'église catholique a passé un peu par-dessus bord le jeûne, le redécouvre maintenant. Bon, et puis les églises protestantes, il y a tellement d'églises protestantes qu'il faudrait typer. Et puis là, je veux pas parler à la place de Pascal, qui pourra nous parler de son église. Alors, dans l'église catholique, il y a une redécouverte du jeûne.
Une redécouverte. Comment est-ce qu'il est vivant, ce jeûne, dans votre église, Pascal Malonda?
Voilà, donc nous, il n'y a pas de mois défini. Voilà, c'est vraiment chacun, donc soit individuellement, soit collectivement. Voilà, au niveau de l'église, on peut dire, je sais pas, au mois d'avril, on va prendre une semaine de jeûne ou deux semaines de jeûne. Et donc voilà, lorsqu'on jeûne, en général, c'est pour des sujets bien particuliers. Donc le premier sujet, c'est donc se rapprocher de Dieu et tout, etc. Et également pouvoir prier, je sais pas moi, pour des personnes qui sont malades ou pour des vraiment des points précis, parce qu'en fait, on croit à la puissance de la prière, en fait. Donc le jeûne, en fait, nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu et nous revêt, entre guillemets, de l'onction, c'est-à-dire de la puissance qui nous permet de voir l'exaucement de nos prières, en fait. Donc lorsque Jésus est sorti du Jourdain et qu'il a été baptisé, la parole a dit que le Saint-Esprit le poussa dans le désert, donc il jeûna 40 jours, 40 nuits, et quand il est sorti du désert, le texte dit il fut revêtu de puissance, en fait. Et donc on comprend que au travers du jeûne, il a reçu la puissance, le mandat, pour ensuite pouvoir accomplir sa mission, qui était de guérir les malades et tout, etc. Et donc nous, chrétiens évangéliques protestants, on jeûne pas pour avoir, parce qu'en fait, on a tout reçu par grâce. À la croix, Jésus nous a tout donné par grâce. Donc c'est vrai que peut-être dans d'autres religions où faut faire pour avoir, nous on n'a rien à faire, en fait, c'est que par grâce, en fait, parce qu'on n'est pas capable d'obtenir les choses par nous-mêmes. Donc Dieu nous donne tout par grâce. Par contre, le jeûne nous permet de pouvoir marcher comme lui a marché, c'est-à-dire en manifestant pleinement sa nature, en fait. Et manifester pleinement sa nature au travers du jeûne, donc c'est de, entre guillemets, de museler la chair, voilà, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, le vol, voilà, toutes ces choses qui sont dans notre nature, voilà, le texte dit la nature charnelle, en fait, profonde et humaine.
Charnelle.
Et le jeûne permet de développer ce qu'on appelle l'homme intérieur, voilà, c'est l'esprit et l'âme, hein. Et c'est pour ça qu'à un moment Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc le pain c'est pour le corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et donc on croit en fait qu'en lisant la Bible, ça nourrit notre homme intérieur, et plus notre homme intérieur est nourri, moins on est, je dirais, le terme est fort, hein, mais assujetti, ouais, voilà, par la société.
À la vie matérielle, à la société.
De consommation, exactement.
Et là, on retrouve, c'est ça qui est formidable, en fait, dans le jeûne, c'est ça, précisément, c'est qu'on peut avoir plusieurs religions et retrouver exactement le même esprit, le même soutien de Dieu, la même avancée, la même envie. Et cette charité, cette solidarité, je crois que c'est vous qui disiez tout à l'heure, il souffre qu'on prête attention à ceux qui n'ont pas à manger, à ceux qui...
Ça
fait partie du jeûne, c'est très important dans ce processus.
Chez nous, par exemple, comme vous avez dit, tu dois effectivement que c'est le partage, le mot du partage, comme on l'a dit. Autour de soi, il faut partager, que vos voisins soient musulmans ou pas. Vous avez le devoir de partager avec vos voisins, parce que, comme on l'a dit chez nous en Afrique, quand vous avez un problème, c'est le voisin qui accourt premièrement avant que les familles ne viennent ou n'entendent même l'événement. Donc, vos premiers sauveurs, ce sont les voisins. C'est à eux, vous devez du partage, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc ce partage, dans la conception musulmane, est vivement recommandé. Et le mois de Ramadan est une aubaine pour faire plus de partage, afin d'avoir des bénédictions, contrairement à ce que Pascal dit par rapport à la religion.
Oui, dans le motif.
Chez nous, il faut profiter au maximum. C'est vrai qu'en dehors du mois de jeûne, on peut faire des prières, on peut jeûner pour invoquer, mais c'est le moment par excellence, voilà, d'invoquer Dieu, de se rapprocher et de profiter de sa grâce.
Je voudrais juste vous emmener quand même à Paris. C'est une association qui s'appelle Une Chorba pour tous, qui est située dans le nord de Paris, dans le 19e arrondissement, où pendant le mois du Ramadan, mais en fait tout au long de l'année, on va trouver dans cette association un endroit où manger. Je vous propose d'écouter juste ce témoignage de son directeur.
Je m'appelle Monsieur Dadouche Abdenon. Le mois de Ramadan, généralement, les amis, les familles se retrouvent pour partager. Vous passez toute la journée à jeûner. À la fin de la journée, vous mangez tout seul un petit bol de soupe ou je sais pas, ça le fait pas. Nous, on a l'habitude, dans nos traditions, on fait une bande d'amis autour d'une chorba, on la partage. L'idée, elle était née comme ça avec des amis. Il y a des femmes et des hommes, des étudiants, des immigrés, des résidents ici en France. Ils ont dit pourquoi on fait pas de ça une association. Ils ont cherché le nom. Ils ont dit si une chorba, ça reste une chorba. En fait, une chorba, c'est une soupe. Faite avec du vermicelle et des légumes et de la viande.
Et ça, c'est vraiment la soupe qui permet de rompre le jeûne.
Par excellence, avec des dattes. Vous avez vu, madame, les gens, ils font la queue. Là, vous allez ressortir dans 20 minutes, vous allez voir la queue, elle va jusqu'au bout de la rue. Si on a le chapiteau, ils ne vont pas faire la queue. Malheureusement, les autorités, ça fait 3 ans, ils ne donnent pas le terrain. Et le chapiteau, ça fait 500 mètres carrés. 600 personnes attablées. Et il arrive, il s'assoit, il a son pain, sa soupe, son dessert, son eau, ses dattes, du lait. Un plat complet. Il finit, il se lève, il touche rien. La différence, dans le chapiteau, il y a un peu plus de dignité. Les personnes, ils sont un peu plus à l'aise. Au lieu de faire la queue, là, ça fait depuis 16 heures, pour être le premier à être servi, pour rentrer chez lui. Alors que nous, on les sert à 18 heures, et la rupture du jeûne, elle est à 20h35. Ça veut dire qu'il va trimballer ça dans le métro, il va aller chez lui, on ne sait pas où il habite. Mais s'il y a le chapiteau, il ne trimballe rien du tout.
Et puis on rompt le jeûne ensemble.
Voilà.
Aussi.
Nous aussi. Nous, les bénévoles, on reste avec eux. Nous, avec l'équipe de bénévoles que vous avez vue, là, les jeunes, les femmes, les hommes. Une fois que vous franchissez la porte de l'association, vous êtes bénévole. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas président, vous êtes. On est tous égaux. La magie du chapiteau, ça change tout. Ça ne pleut pas, ça ne vente pas, il ne fait pas chaud. On a des vieux. On a beaucoup de mamans, vous allez les voir, ils sont là, ils font la queue. Il y a des enfants, il y a des Syriens qui arrivent avec les poussettes. C'est très difficile. Eux, ils n'ont pas demandé d'être asile politique, ils n'ont pas demandé d'être pauvres. C'est la vie qui les a lâchés. On ne fait pas de religion, on ne fait pas de politique. On est humanitaire. On donne aux gens pour remplir leur ventre. Juste le merci, ça nous suffit.
Une chorba pour tous dans le nord de Paris. Ce partage, cette communion, est-ce que c'est pas aussi la forme sous-jacente? On a la solitude et la démonstration très personnelle et en même temps ce grand partage et cette communion entre tous les fidèles. Est-ce que c'est ça aussi le jeûne? Je vous laisse.
Alors, oui, le jeûne c'est ça. Mais il faut dire que même pas le jeûne, en dehors du jeûne, les musulmans est appelé à faire du partage autour de lui. Mmh. Voilà.
Le croyant, en fait.
Le croyant, voilà, en gros.
Oui, parce que, en fait, ce qu'on appelle la dimension horizontale, c'est-à-dire le lien aux autres, c'est aussi spirituel et c'est tout autant spirituel que le lien vertical à Dieu. Puisque Dieu, il est à la fois transcendant, donc extérieur à nous, il est aussi immanent en nous et en chacun d'entre nous. Donc, la relation avec les autres, c'est aussi une pratique spirituelle à part entière, qui est encouragée par tous les textes sacrés, de toute façon.
Pascal Malonda. Oui.
Si vous me permettez, je peux peut-être lire un petit texte.
Bien sûr.
Voilà, c'est de Ésaïe 58, hein, où Dieu dit, voilà, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Donc on voit bien que le jeûne, c'est pas uniquement... Voilà, la privation de nourriture, mais c'est...
C'est une démarche spirituelle.
On sait que tout part du cœur, en fait. Pour que le jeûne ait une véritable portée, il faut que le cœur aussi ait des bonnes dispositions.
Une vraie générosité.
Voilà.
Je crois que Pascal a bien fait de citer ce texte, parce qu'il est, il est très important, il est même fondateur, quoi. Je pensais, en vous écoutant, les premiers chrétiens, quand ils jeûnaient, ils mettaient de côté l'argent... des aliments qu'ils n'avaient pas mangés, et l'utilisaient pour libérer des prisonniers qui étaient victimes de l'Empire romain. Enfin, voilà. Donc il y a toujours eu cette dimension de partage. Le jeûne n'a de sens que s'il nous rend moins égoïstes, au fond, s'il nous ouvre aux autres, c'est aussi simple que ça.
S'il nous remet au centre du monde, hein, on est là, hein, parmi voilà, tant d'autres. Le goût du monde, justement, se referme. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission. Anne-Sophie Mancinet, Pascal Malonda, Issouf Zarbeau, Jean-Claude Noyer. Le grand livre du jeûne est publié chez Albin Michel. Une chorba pour tous se trouve à Paris. Pour faire vos dons, parce qu'elle marche, cette association, avec vos dons, il y a une adresse, c'est facile, www.unechorbapourtous.com. Je mettrai bien sûr le lien sur l'adresse internet du Goût du Monde. J'espère que cette émission vous aura nourri, autant qu'elle m'a nourri en tout cas en la préparant. Vous pourrez la réécouter, la podcaster, la partager, la commenter sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer, à Cécile Bonissi qui l'a réalisée et mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous.